Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Regards sur le monde. On débute l'année 2019 avec de nouveaux chroniqueurs et nous aurons également une entrevue avec Alexandre Benoît qui est étudiant en génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Ici Michel Poulin. Malheureusement, ma collègue Diane Felici est absente aujourd'hui, donc je serai seul avec vous pour cette première émission de l'année 2019 de Regards sur le monde. On a fait quelques petits changements dans notre façon de procéder et nous avons ajouté des chroniqueurs. Alors, on aura le bonheur d'avoir avec nous tout à l'heure Claudia Negrelli, qui est blogueuse, et nous aurons également le bonheur d'avoir avec nous Christiane Campagna, qui va venir nous parler de toutes sortes de sujets fort intéressants. Bien sûr, nous allons également avoir nos entrevues, comme à l'habitude, avec des gens qui œuvrent en déficience visuelle ou qui sont atteints de déficience visuelle et qui font leur vie de façon tout à fait extraordinaire. Mais dans un premier temps, notre premier bloc, à partir de cette semaine, ce sera des nouvelles insolites ou encore des découvertes qui ont été faites. Et parmi nos nouvelles insolites, eh bien, il y a des lunettes de soleil devant les yeux et des baguettes à la main. Eh bien, Li Ming, 16 ans, secoue la tête au rythme des battements de ses bras parce que des élèves en Chine, malvoyants, poursuivent leur rêve rock'n'roll. Alors, sur scène, il est accompagné de 5 autres membres. Tous portent des lunettes de soleil et pas seulement pour paraître cool. Ensemble, ils ont créé un groupe de musique composé d'élèves et d'enseignants malvoyants de l'école pour malvoyants de Yuhu, qui est une ville de la province chinoise de Anhui, dans l'est de la Chine. Alors, ce groupe est composé de 18 élèves et enseignants âgés de 9 à 34 ans. Le groupe s'appelle Dark Eyes, donc les yeux sombres, un nom tiré d'un célèbre poème chinois. Alors, Chu Olang, qui est guitariste électrique et fondateur du groupe, déclare que « la nuit m'a donné les yeux sombres, mais je m'en sers pour chercher la lumière ». Le nom du groupe vient, comme je le disais, d'un poème que les jeunes adorent. Alors, à l'exception de Zhu Zhenyang, qui est le chanteur, tous les autres membres du groupe ont différents niveaux de déficience visuelle et la plupart sont élèves de cette école. Fondé en 2016, le groupe a été invité à se produire cette année lors du gala de la fête du printemps diffusé en direct à la télévision. Alors, les malvoyants, comme tout le monde, sont capables de jouer de la musique et d'aimer la musique, explique le professeur de musique de l'école. Il sait jouer de plus de 10 instruments, ce professeur, M. Chu, qui s'appelle. Alors, après avoir assisté à un concert de rock en 2015, il a eu l'idée de créer un groupe à l'école. Il a ensuite recruté des membres, acheté des instruments et enseigné la musique aux élèves. Alors, pratiquer la musique nécessite plus d'efforts pour les personnes en déficience visuelle. D'abord, M. Chu divise les partitions en différentes parties pour les différents instruments et prend chaque membre du groupe à part pour les aider à mémoriser la partition de leur propre instrument. Alors, il met en place un morceau de musique. Ça peut prendre au moins 2 mois avec des centaines de répétitions. Actuellement, le groupe a 10 chansons à son répertoire. Parmi également nos nouvelles, ce n'est pas tellement insolite, mais c'est quand même assez particulier. C'est à Sainte-Marie-de-Beauce, dans le cadre d'une nouvelle réglementation du Code de la sécurité routière qui est entrée en vigueur le 31 décembre dernier. La ville de Sainte-Marie-en-Beauce avise qu'elle interdira le virage à droite à un feu rouge lorsque les traverses piétonnières sont munies d'un signal sonore. Alors ainsi, à compter depuis le 31 décembre, le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches de plusieurs intersections sur les boulevards Vachon et La Rochelle, ainsi que sur l'avenue Marguerite-Bourgeois à Sainte-Marie-de-Beauce. Alors, les gens qui vont se promener dans ce coin de pays, magnifique d'ailleurs, alors il faut faire attention. La ville de Sainte-Marie incite donc les automobilistes à porter une attention particulière à cette nouvelle signalisation et à modifier leurs habitudes de conduite en conséquence. Alors, ce n'est pas impossible que d'autres villes au Québec emboîtent le pas dans ce cadre. On fait une pause musicale et on est de retour à Regards sur le monde.
Où c'est que t'étais? petit sans cœur où tu te cachais. J'ai manqué de veine, tu t'es poussé. Là, tu te ramènes le bout du nez. Tiens, v'là le bonheur, tout pomponné. Penses-tu qu'à cette heure, je vais t'écouter? Sacré voleur, tu m'as floué. Là, tu reviens te faire pardonner. Dans un creux de vague, l'amour zigzague, l'homme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu la peine, maudit bonheur. T'as eu ma peau, t'as eu ma peau. Quel honneur, t'as pas de parole. Maudit menteur, insiste pas. J'pourrais te suivre encore une fois. Tiens, v'là le bonheur. Ben bon, je connais l'odeur, c'est son parfum, non. Méchant farceur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es de bonne humeur, moi je me méfie. Dans un creux de vague, l'amour zigzague, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau. Dans un creux de vague, l'amour zigzague, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu de la peine, maudit bonheur, t'as eu ma peau, t'as eu ma peau. Maudit bonheur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici. Maudit bonheur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Si elle me cherche, je suis ici.
Votre émission Regard sur le monde sur Canal M, eh bien le bonheur, on l'a au bout du fil parce qu'on est en compagnie de Claudia Nigrelli qui sera à notre émission à chaque semaine. Bonjour Claudia.
Ben bonjour.
Vous allez bien, chère madame?
Ben oui, et vous?
Oui, ça va très bien. Alors c'est un grand bonheur que nous aurons à chaque semaine avec vous. On va parler de quoi, Claudia?
Écoute, on va parler d'un peu, donc moi, comme je suis non-voyante, on va parler un peu des différents sujets, donc qui concernent pas nécessairement les non-voyants, mais les non-voyants qui vivent dans une société de personnes voyantes. Donc, que ça soit des histoires drôles qui se passent dans mon cas, ou bon, des trucs, des astuces pour les gens non-voyants et pour leurs proches.
Donc, ce sera du bonheur parce que vous allez nous amener, vous allez nous apporter des choses extrêmement positives dans la vie des personnes qui, bon, des personnes non-voyantes, mais aussi de l'entourage, de ce qui se passe.
Exactement. Donc, positive dans le sens de vraiment dire aux gens que tout est possible quand nous sommes non-voyants. Donc, tu sais, dans mon cas, j'ai des histoires assez drôles dans le domaine de sortir avec des gens, donc des copains quand nous sommes non-voyants, ça peut être un peu drôle, malaisant parfois, et aussi amener un peu le côté assez sérieux. Donc, aider les gens, bon, quand on cherche un emploi, exemple, et on est non-voyant, comment procéder dans tout ça. Donc, vraiment pour les gens non-voyants et leurs proches, comme j'ai dit tantôt.
Parce que vous avez fait des... est-ce qu'on peut appeler ça un test? Mais enfin, vous avez fait sur votre blog, parce que vous êtes blogueuse, on doit le dire aux gens.
Oui.
Vous avez déjà fait des expériences avec des personnes voyantes qui, pour eux, c'était la première fois qu'elles côtoyaient une personne non-voyante.
Absolument. Donc, moi, j'adore ça, vraiment, montrer aux gens ma réalité un peu. Donc, de dire que vraiment tout est possible. Donc, je fais vraiment tout. Comme vous savez, tu sais, je mène quand même deux entreprises. Je suis YouTuber, blogueuse. Donc, pour moi, il n'y a pas de limite.
Est-ce qu'il y a des exemples? On va parler de toutes sortes de choses dans le cadre de votre chronique, mais est-ce que vous avez peut-être un exemple à nous donner de ce qu'on aura l'occasion d'entendre et de vivre avec vous?
Ben écoute, comme j'ai dit tantôt, une histoire humoristique que je dis d'habitude, c'est quand c'est le blind dating. Donc, dans mon cas, c'est vraiment un blind, c'est le dating à l'aveugle. Donc, je suis aveugle, on peut dire. Donc, des fois, c'est malaisant. Donc, une petite histoire drôle qui m'est arrivée. J'aimerais ça aussi aborder le sujet, donc, comme je dis, carrière, emploi. Quand on nous sommes non-voyants, c'est pas toujours évident comment procéder dans tout ça. Et pour les parents aussi, un autre sujet intéressant, c'est de vraiment laisser son enfant non-voyant faire ses propres erreurs, faire ses choses. Et, tu sais, quand on tombe, quand on est non-voyant ou qu'on se blesse quelque part, ben, la vie continue. Hein? Donc, c'est de vraiment laisser l'espace aux jeunes de faire ses erreurs et tout ça. Donc,
parce que comme parents, c'est normal qu'on est protecteur. Donc là, ici, vous parlez d'exemples de peut-être de surprotection auprès des parents, auprès de leurs enfants.
Oui, surprotection, mais au même temps, je ne veux pas trop mettre l'emphase là-dessus. C'est aussi à l'enfant. Hein, ça joue les deux côtés. Donc, c'est aussi à l'enfant non-voyant ou adulte non-voyant dans certains cas, de vraiment prendre sa place et de dire, regarde, j'ai pas toujours besoin d'aide. Si j'en ai besoin, je te laisserai savoir. Donc, ça fonctionne des deux côtés. Donc, c'est une collaboration entre les proches et le non-voyant ensemble.
Au niveau des sujets de votre blog, parce que s'il y a des gens qui veulent en connaître un peu plus sur vous, ils peuvent se rendre sur votre blog. Comment ça fonctionne? On vous rejoint donc, comment?
Oui, donc vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Donc, vous avez juste à cliquer youtube.com et Claudia Nigrelli. N comme Normand, I-G-R-E-L-L-I. Et j'aborde des sujets un peu de tout. Donc, je suis aussi sur Facebook, si vous cherchez mon nom sur Facebook. Vraiment de tout. Donc, comment faire un thé, comment faire du lavage. Ça peut aller aussi des expériences. Donc, je fais beaucoup d'entrevues, donc avec des gens assez inspirants. Et comme je suis conférencière aussi, donc je montre un peu arrière-scène quand je fais mes conférences, quand je voyage et tout ça. Donc, un peu de tout, motivation, inspiration, mais aussi des astuces et des trucs pour que les gens puissent s'améliorer dans leur vie de non-voyant.
Qu'est-ce qui vous a amené à faire le blog, mais à passer ces messages aussi? Qu'est-ce qui vous a amené à cette mission, si je peux l'appeler ainsi?
Oui, bonne question. En fait, moi, depuis que je suis tout jeune, c'est certain que les gens me posent toujours la question, mais comment tu fais? Donc, c'est tellement indépendante, comment tu fais, et c'est certain que à un moment donné, le déclic s'est fait, que je voulais pas nécessairement l'expliquer à une personne à la fois. Donc, je voulais une plateforme plus vaste, plus large, et en fil en aiguille, ben voilà, il y a eu mon Facebook, et ensuite YouTube, mon petit bébé YouTube est né. Donc, c'est sûr que moi, qu'est-ce qui me surprend, c'est que j'ai déjà des gens qui se sont abonnés à ma chaîne de partout à travers le monde. Donc, moi, ça m'inspire aussi parce que je partage mon message, je partage mes trucs et astuces, mais je réalisais pas à quel point que j'avais des gens qui me suivaient de partout. Donc, moi, ça m'inspire d'aider, mettons, quelqu'un dans les Philippines ou en Mexique ou en Colombie-Britannique. Donc, c'est vraiment, avec l'Internet, on ne sait pas avec qui qu'on a affaire des fois, mais c'est bien de savoir que j'en inspire plein.
Donc, ça vous permet de parce que j'imagine que qu'on soit aux Philippines ou ailleurs,
oui.
Et si on est non-voyant ou on a un problème de déficience visuelle, on vit toute la même chose comme être humain, finalement.
Absolument. Les maladies peuvent varier, mais notre vie, moi, qu'est-ce que je trouve ça spectaculaire, en fait, les gens vont trouver ça un peu bizarre, mais moi, je suis unique. Donc, j'ai la rétinite pigmentaire, mais j'ai une forme de rétinite pigmentaire. Il n'y a personne d'autre qui a ma forme, ma vision, en fait. Donc, moi, je trouve ça bien parce qu'on vit la même réalité, mais c'est de là aller chercher une complicité. Donc, tout le monde a un handicap visuel, comme vous avez dit, mais c'est vraiment expliquer que c'est correct. On vit tous les mêmes affaires. On se lève tous le matin avec la même façon de faire notre thé, avec le petit chose qui nous dit quand l'eau est arrivée au bar. Donc, moi, j'adore montrer aux gens. Puis aussi, j'en suis d'autres sur Facebook, donc d'autres sur YouTube aussi, des blogueurs et tout ça, qui sont aussi non-voyants. Donc, je trouve que la communauté non-voyant grandit énormément.
Et est-ce que il y a à recevez-vous, j'imagine, que vous devez recevoir des témoignages des gens qui vous suivent? Ça doit être extrêmement stimulant.
Oui, tout à fait. Moi, qu'est-ce qui m'inspire le plus, en fait, c'est justement ça, c'est quand, en fait, je donne une conférence et on sait jamais, moi, genre, je donne des conférences des fois pour 200, 300, 500 personnes et plus. Et quand on a, à la fin, quand il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit, waouh, tu sais, mon enfant est non-voyant ou ma mère est non-voyante ou, et ton histoire m'a vraiment touchée. Aussi, quand je reçois des courriels, justement, par les gens qui me suivent, merci beaucoup pour ton truc, comment tu fais le lavage, ça m'a aidé énormément. Et des fois, c'est pas une question d'être non-voyant, c'est une question d'être organisé. Donc, tout le monde pourrait en profiter de ma chaîne YouTube, que ça soit non-voyant ou pas.
Mais il y a quelque chose, j'ai une question qui me brûle les lèvres, parce que les gens qui sont voyants et qui vous suivent, qu'est-ce que les gens vous disent? Parce qu'on est comme voyant, si on n'est pas habitué à côtoyer des personnes en déficience visuelle, c'est gênant, on ne sait pas quoi faire, c'est embarrassant. Qu'est-ce que les gens vous disent à votre contact?
c'est très bonne question. En fait, c'est ça. Donc, les gens me disent, premièrement, c'est une question d'inspiration, mais moi, c'est pas nécessairement ça. Moi, je vis ma vie comme tout le monde. Et moi, je trouve que les gens disent beaucoup, c'est inspirant, mais moi, je dis, regarde, prenez pas le fait que je fais mon lavage comme une inspiration. Prenez le fait que je me force à tous les jours de devenir la meilleure de moi-même et j'enseigne aux autres de devenir la meilleure de eux-mêmes. Donc, c'est un lien que je fais avec les gens en général, de pas nécessairement avoir cette peur de parler à quelqu'un non-voyant parce qu'on est exactement comme tout le monde, sauf que, nos yeux, peut-être, ils fonctionnent un peu moins bien, mais c'est une piquer la curiosité. Hein? Donc, moi, j'adore piquer la curiosité des gens, de dire, posez-moi des questions, comment je fais ci, comment je fais ça, puis à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que ma vie est à peu près la même que la vôtre, sauf que j'ai peut-être certaines trucs que je fasse un peu différents ou j'ai des outils que j'utilise un peu différents.
J'ai vu sur votre blog, moment donné, vous avez fait une sortie au cinéma avec une jeune dame et qui, pour elle, c'était la première fois qu'elle accompagnait une personne non-voyante dans un cinéma. Quelle est la conclusion de cette expérience?
Écoute, la conclusion, en fait, elle m'accompagne au cinéma et moi, je l'avais mis au défi pour qu'elle puisse me décrire le film. Et elle s'est rendue compte assez vite que je mémorise les voix des personnages. Donc, elle, à un moment donné, elle me décrivait beaucoup. Puis seulement, j'ai compris, c'est Julie qui est rentrée dans la salle. Elle dit « OK ». Donc, c'est vraiment juste de prendre un petit recul et de laisser… En fait, moi, j'ai adoré cette expérience-là parce qu'on était deux amis, on allait écouter un film. Je n'avais pas nécessairement besoin qu'elle le décrive, mais pour elle, l'expérience, c'était… Wow, tout à coup, je suis plus intéressée au film parce que je dois payer attention pour le décrire à Claudia. Donc, c'était plus elle, la gagnante, et moi aussi, dans quelque sens, parce que j'ai, à un moment donné, dans le film, c'était écrit janvier 1949. Donc, sans savoir cette information-là, j'aurais pas su qu'il était revenu à la scène précédente. Donc, c'était vraiment des petites choses qu'elle a faites. Donc, les deux, on était gagnantes là-dedans.
Donc, dans le cadre de notre chronique, Claudia, on a pris un peu plus de temps qu'à l'habitude. Là, votre chronique sera un petit peu plus courte, mais je tenais à ce qu'on mette la table et qu'on prenne le temps de bien expliquer ce qu'on va faire dans les prochaines semaines avec vous au téléphone, de nous raconter, parce que la radio, hein, c'est un médium qui permet de raconter des histoires. Alors, vous allez nous raconter toutes sortes d'histoires, des choses qui vous sont arrivées.
Ben oui, absolument. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, Claudia. On se parle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Pour me sortir du chemin qui me conduit dans la poussière, me retient et me fait taire le long des saisons sans lumière. Pour me sortir des sommeils qui vont mentir jusqu'à offrir des paradis qui n'étaient rien que terre brûlée sans lendemain. Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, ivre mort à guetter l'aurore. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du pieds nus dans la rosée et plus rien à faire. Oh, 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 oh. Pour sortir du remous qui nous entraîne coup, sur des vitrines qui se moquent de nous, pendant que l'ennui sourit derrière. Pour sortir de la honte, un frisson froid quand je les revois, lancer les cailloux du mépris, blesser la vie vaste et profonde. Aux portes du matin, plus rien dans les mains. Je frappe aux portes du matin, pieds nus dans la rosée et plus rien à faire.
Rien dans
Regard sur le monde, eh bien, la prochaine demi-heure, nous allons nous entretenir avec Alexandre Benoît, et c'est à la suite d'un article paru dans le quotidien La Tribune. Alexandre a terminé son baccalauréat en génie informatique à l'Université de Sherbrooke, et le titre de l'article est « Voir grand malgré la cécité ». Alors, on aura l'occasion, au cours de la prochaine demi-heure, de s'entretenir avec Alexandre, et nous aurons également le bonheur d'avoir en studio Christiane Campagna, qui va venir nous apporter toutes sortes d'informations sur ce qui se passe au niveau de la déficience visuelle. Alors, comme je l'expliquais au tout début de l'émission, c'est notre nouvelle mouture de Regard sur le monde, avec des chroniques, avec des nouvelles insolites, avec toutes sortes de choses qui se déroulent, qui se passent au niveau de la déficience visuelle. Alors, on conserve, bien entendu, notre habitude d'avoir avec nous des invités de marque, des gens qui font la différence. Alors, on se retrouve dans quelques minutes, l'autre côté de la pause. À plus tard. De retour à notre émission Regard sur le monde, et nous avons en ligne un invité de marque, et je vous le dis de marque parce qu'il a fait l'objet d'un article qui est paru dans le quotidien La Tribune de Sherbrooke. Alexandre Benoît, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, parce que vous avez eu un article écrit par Mélanie Noël, qui est journaliste à La Tribune, qui a vraiment attiré notre attention. Vous êtes étudiant en génie informatique à l'Université de Sherbrooke. Est-ce que les études sont terminées?
Oui, c'est fini.
C'est fini, bon, enfin. pour mettre un petit peu la table, M. Benoît, vous êtes atteint de l'amaurose congénitale de Leber. Quelle est cette pathologie exactement?
C'est une dégénérescence de la rétine, en fait, très similaire à la rétinite pigmentaire. La différence, c'est que tu l'as, dans le fond, dès la naissance. C'est une maladie qui est plus agressive chez les hommes que chez la femme. Dans mon cas, moi, c'était encore plus agressif. Là. De ce que je comprends, je pense à 20 ans, j'étais atteint comme quelqu'un de 60, par exemple.
OK. Vous avez quel âge présentement, M. Benoît?
Là, j'ai 23 ans.
23 ans. Alors, vous avez, et c'était particulier dans l'article, on faisait mention de ça, vous avez des résultats scolaires exceptionnels avec une note de A+, avec une moyenne de 4,3 sur un maximum de 4,3. Alors, ce sont des résultats impressionnants. Comment on y arrive?
Ouais, c'est que comment il arrive? Ben, dans le fond, c'est difficile à dire. Moi, je pense qu'en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que je suis très, très curieux. Je pense à l'aide parce que, tu sais, mettons, quand t'es curieux dans un domaine, je pense que c'est plus facile d'avoir des bonnes notes dans ce domaine-là parce que ça t'intéresse. Quand t'es curieux dans tous les domaines, ben, c'est plus facile d'avoir des résultats dans tous les cours, en fond.
D'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont de très bons résultats, mais dans ce qui les intéresse. Puis comme des fois, on a des cours généraux du français, ou des fois, c'est de la philo qui est moins intéressante. Bien, c'est dans ces cours-là que le monde, souvent, a des moins bons résultats.
Votre cercle d'amis est très impressionnant. On le souligne dans l'article, d'ailleurs, parce que vous êtes à l'antithèse de la solitude. C'est ce qu'on constate dans l'article. Et comment faites-vous pour bien vous entourer comme ça? C'est peut-être votre personnalité, mais il y a sûrement autre chose.
Ouais, ben, quand j'étais jeune, en fait, j'avais plusieurs cercles d'amis différents. Je pense que j'ai vite appris à savoir comment agir dans un groupe puis dans un autre, finalement. Je pense que j'ai vite compris comment ça fonctionnait, dans le fond, de parler avec les gens. Puis, j'ai toujours été positif. Je me suis jamais vraiment fait écœurer. Si ça arrivait, ben, tu sais, je riais avec le monde. Puis finalement, tu sais, quelqu'un qui pogne pas, finalement, c'est pas très intéressant de l'écœurer.
Oui, effectivement. Et les études sont terminées. Vous avez terminé au mois de décembre. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que vous avez fait un stage chez Microsoft.
Oui, cet été. 12 semaines. à Redmond au siège social, donc c'est à côté de Seattle. J'ai signé avec Microsoft finalement, donc ça c'est décidé, je retourne là-bas parce que c'était vraiment une expérience formidable. J'avais aussi une offre dans le fond chez Google, mais je savais comment ça allait être chez Microsoft, puis je retournais exactement dans la même équipe, puis je savais que je pouvais pas me tromper. C'était vraiment le fun comme stage.
Et qu'est-ce que vous allez faire chez Microsoft?
Je suis dans l'équipe Excel, donc travailler dans des nouvelles fonctionnalités de Excel pour commencer, puis après ça, c'est toujours possible de bouger à l'interne d'une équipe à l'autre, mais j'aime vraiment beaucoup Excel.
Et vous avez, j'imagine, vous devez avoir un équipement particulier pour faire votre travail?
Oui. Il y a deux avenues d'habitude pour les déficiences visuelles à l'ordinateur, les plages braille, mais moi je lis pas très vite en braille, puis aussi le braille anglais est différent du braille français, puis comme j'ai besoin des deux langages, moi j'ai juste appris le braille français, sauf que dans le domaine de l'informatique, c'est beaucoup pratique de connaître l'anglais. Mm-hmm. Donc je vais avec une synthèse vocale, donc JAWS, c'est un logiciel qui permet de lire ce qu'il y a à l'écran. Puis, chez Microsoft, ce qui est particulier, c'est que je vais avoir un aide visuel, donc quelqu'un avec moi qui va être un peu comme mes yeux, en fait.
Est-ce que vous êtes unique chez Microsoft dans votre condition ou s'il y a d'autres personnes, Microsoft a déjà vécu l'expérience?
Oui, en fait, moi, sur le même étage que moi, en fait, il y avait quelqu'un qui était aveugle, qui travaillait là depuis un an, je crois. Puis, il y a un groupe, chez Microsoft, c'est quand même assez gros. À l'interne, ils ont des groupes justement comme ça. Il y avait un groupe pour les personnes avec des handicaps visuels. Puis je pense que c'était peut-être une quarantaine de personnes dans ce coin-là. Mais oui, il y en a quand même. Puis ils sont très préparés à ça, de même que tout autre type de personnes aussi.
Tout est possible, hein, M. Benoît.
Ben, c'est ce que je me suis toujours dit. En fait, je ne me suis jamais limité à cause de mon handicap. Bon. Je dis ça, mais en même temps, quand je vous disais que j'étais très curieux, ça a été dur de choisir mon bac. Je dirais que ça m'a peut-être simplifié le choix parce que je pouvais pas faire une médecine, par exemple. Mais je me suis jamais vraiment limité dans ce que je pensais pouvoir être capable de faire. Puis même que c'est ce qui me motive, en fait, de faire un défi comme ça puis d'y arriver. Tu sais, si j'ai les meilleures notes, c'est juste parce que pour moi, c'est un peu... Pas que c'était nécessairement difficile, mais je trouvais ça toujours intéressant de réussir à rivaliser avec ceux qui voient parfaitement bien.
Vous avez, il y a une citation dans l'article de Mélanie où vous dites « Ce que j'ai appris avec l'expérience, c'est qu'au début de chaque projet ou chaque stage, et je dois vous avouer que ça m'a fait bien sourire ce que vous avez dit, alors donc c'est qu'au début de chaque projet ou chaque stage, le problème est très compliqué et on pense qu'on n'y arrivera pas. Mais finalement, on y arrive toujours. Il faut juste se donner du temps. Jusque-là, ça va. Alors, les premiers jours, il faut se rappeler qu'on va y arriver, quitte à faire semblant d'avoir les choses en main.
Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est stressant. Hein? Je pense pour n'importe qui, là, pas juste quand tu as un handicap, mais de une première expérience de travail. Il y a des gens qui sortent de l'université et qui ne sont pas prêts à travailler. Mais s'ils n'ont pas eu beaucoup de stages, moi, ça a donné que j'ai eu 5 stages dans mon programme universitaire parce qu'il y en a beaucoup dans ce programme-là. Mais le premier, c'est très, très stressant. Déjà, tu as juste un an d'études de fait. Tu n'es peut-être pas nécessairement la meilleure personne pour occuper le poste. Mais j'ai appris avec le bac, je dirais qu'on finit toujours par apprendre... Même si ça a l'air vraiment difficile, ça fait juste prendre du temps.
Votre entourage doit être très fier de vous.
Oui, on me le dit souvent.
Oui, hein?
Autant la famille, les amis.
Alors là, maintenant, c'est un grand changement de vie. Comment vous entrevoyez les prochains mois et les prochaines années? C'est un changement important?
Oui. Première étape, ça va être de trouver un appartement pour là-bas. Mais après ça, rendu là-bas... c'est sûr que déjà c'était quand j'y avais été, c'était mon 5e stage. Donc ce qui me stressait, c'était pas la job. Là. J'avais eu 4 stages avant, ça allait. C'est vraiment. Puis c'est pour ça que j'ai voulu aller à l'international. C'est vraiment le challenge d'être très très loin du Québec finalement. Mais j'y avais été avec un de mes amis, puis lui aussi, il retourne chez Microsoft, donc ça, c'est sûr que ça va être plus intéressant d'y aller à deux que d'y aller tout seul. Mm-hmm. Mais je pense que le plus difficile est déjà fait. Avec le stage, j'ai vécu là-bas 3 mois sans problème. J'ai beaucoup aimé l'endroit. Là-bas, les gens sont vraiment gentils. Je pense que j'aurais pas trop de problèmes de m'habituer au style de vie là-bas.
Alors, pour les dernières minutes qui nous restent, M. Benoît, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? C'est fantastique ce que vous avez réalisé, vraiment.
Ben, c'est difficile à répondre parce que je ne sais pas moi-même. Déjà, je m'étais dit que j'allais rester là-bas au moins 4 ans. Après ça, on allait voir finalement ce qui se proposait comme opportunité. Mais j'imagine qu'on pourrait me souhaiter beaucoup de succès.
Vous êtes natif de Trois-Rivières, c'est ça?
Nicolet.
Ah, vous êtes natif de Nicolet?
Oui.
Monsieur Benoît, Alexandre Benoît, formidable, vraiment. Et nos meilleurs voeux vous accompagnent dans cette nouvelle aventure chez Microsoft. Bravo, bravo, vraiment. Vous êtes une belle fierté.
Merci.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Mais dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume et sur tous mes sujets, beaux élèves. Puis il vint un vent de débauche qui faucha le roi sous mon toit, et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant.
Très beau dedans, ce que t'as fait maintenant.
Viendrait au monde une deuxième fois dans la peau d'un chat. Je me sens comme une fontaine après un long hiver, et j'en ai l'air. J'ai laissé ma fenêtre ouverte à sa pleine grandeur, et je n'ai pas eu peur. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un autre que moi. L'amour de la même manière, et je ne sens plus ma peau me peser comme avant.
Mais bon, de gars, ça tu t'as vu la langue.
Tu diras aux copains du coin que je ne reviendrai plus, mais n'en dis pas plus. Ne dis rien à Marie-Hélène, donne-lui mon chat, elle me comprendra. J'ai laissé mon jeu d'aquarelle sous les bancs de bois, c'est pour toi. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois. Comme un petit roi,
Sur Canal M, c'est Regards sur le monde. Alors, comme on le mentionnait, nous avons maintenant des chroniqueurs à notre émission. On en est très heureux. C'est du grand bonheur. Et on accueille Christiane Campagna. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous allez nous apporter des belles nouvelles.
Ben oui, c'est que moi, je passe... Une partie de mon travail consiste à chercher, de toute façon, tous les jours, des nouvelles qui concernent le handicap, l'accessibilité, des choses comme ça. Donc, je passe à côté de nouvelles qui intéressent les personnes qui sont préoccupées par les enjeux concernant les gens qui ont un handicap visuel, mais aussi, il y en a des plus rigolotes ou des plus inusitées qui n'ont peut-être pas leur place là, dans nos émissions plus affaires publiques. Là. Alors, je vais les partager avec
Donc,
vous.
Donc, ça sera plus léger.
Mais ça va dépendre deux semaines. Ça dépend de ce que l'actualité nous livre aussi. Mais aujourd'hui, je vous parle de mode, oui.
Ah, allons-y.
Allons-y. Alors, j'ai découvert l'existence d'une boutique en ligne. Je ne l'ai pas découvert dans le cadre de mon travail. J'écoutais un podcast sur le marketing que j'écoute toutes les semaines. Et ils ont parlé de ça. Le site s'appelle Two Blind Brothers. Et on y vend des chandails pour hommes et femmes. Ces deux frères-là, ce sont Bradford et Brian Manning. Ils ne sont pas complètement non-voyants. En fait, ils vivent avec la maladie de Stargardt, ce qui est une déformation génétique qui touche le centre de la rétine et qui cause donc une perte de vision centrale. C'est une condition donc, qui s'attaque à la macula et qui est responsable d'une vision... Donc, c'est la vision centrale qui devient embrouillée. Ils voient en périphérie. Ça ressemble un peu aux symptômes de la DMLA, sauf que ce n'est pas relié à l'âge. Ça arrive beaucoup plus jeune. C'est une maladie un peu plus rare. Leur marque, Two Blind Brothers, leur slogan, bon, traduit en français parce que je suis tombée sur un article en français par la suite, c'est « Sentez la différence ». Et ça a plusieurs sens parce qu'ils se vantent d'abord et avant tout que leurs chandails sont doux. Parce que eux, c'est ça leur façon de magasiner, c'est avec le toucher. Et les deux frères étaient une fois chez Macy's, ils magasinaient. Et ils se sont perdus l'un l'autre. Bon, la vision aidant pas nécessairement pour ça. Mais quand ils se sont retrouvés à la caisse, ils se sont aperçus qu'ils avaient choisi tous les deux le même T-shirt. Et la raison pour laquelle ils l'avaient choisi, c'est parce que c'était le plus doux. Puisque c'est ça, leur façon de magasiner. Alors, c'est là qu'ils ont eu l'idée de lancer un site pour vendre des chandails. Ils se sont impliqués dans tout, dans le design, tout ça. Mais leur priorité, c'est de trouver des tissus qui sont très doux. Mais au-delà du confort, Two Blind Brothers a aussi pour but d'attirer l'attention du public sur les maladies de l'œil. Les deux frères travaillent notamment avec la Foundation Fighting Blindness. Donc, ils remettent 100 % de leurs profits à cet organisme-là qui fait de la recherche sur les maladies de la rétine. Et puis, en plus, leurs vêtements sont fabriqués par l'association Dallas Lighthouse for the Blind, une compagnie pour laquelle 70 % des employés ont un handicap visuel.
Ah bon?
Mais c'est pas tout. Parce que même leur site web contribue à la sensibilisation. Pour les fêtes, ils avaient retiré toutes les images de leur site web. Ils vous proposaient de magasiner à l'aveugle.
Ah oui.
Comme eux le font, comme une personne non-voyante le fait si elle commande sur Internet. Alors, vous rentriez seulement dans le formulaire, bon, en plus de vos mensurations, le montant que vous étiez prêt à payer, soit 32, 69 ou 89 $ et il fallait leur faire confiance. Parce que ce qu'ils disent, c'est qu'eux, quand ils demandent des directions dans la rue, quand ils demandent de l'aide en magasinant, tout ça, eux sont pris pour faire confiance
Absolument.
Aux gens.
Oui.
Alors, ils voulaient que le public ait cette expérience-là de devoir faire confiance. Et puis, maintenant, le site est revenu à la normale, mais même en tout temps, vous avez un icône sur le site sur lequel vous cliquez, et là, tout d'un coup, vous voyez l'écran comme eux le voient. C'est-à-dire que il y a un grand rond au centre de l'écran qui devient complètement embrouillé. Vous ne voyez presque plus rien. Et vous ne voyez que les côtés, les coins de l'écran. Et ils font la même chose sur leur compte Instagram. Ils présentent toujours... Bon, ils présentent des photos pour faire la promotion de leurs produits, mais ils en donnent deux. Et la première, c'est toujours comme eux la verraient. Donc, avec ce grand cercle flou au centre. Et ensuite, bon, peut-être pour vous inciter à acheter le chandail, ils mettent aussi la photo régulière. Donc, leur site web, c'est twoblindbrothers.com pour ceux qui voudraient aller visiter ça.
Alors, two blind, T-O-B-L-I-N-D, c'est ça?
T-W-O.
T-W-O.
Blind Brothers, B-R-O-T-H-E-R-S.
Ah, ben voilà. Alors, et d'ailleurs, ces deux jeunes donnent des conférences à travers les États-Unis actuellement.
Ah, ça, j'étais pas au courant,
oui,
par exemple.
Tout à fait, absolument. C'est tout à fait génial ce qu'ils font.
Ils sont passés à la télé et ça a explosé depuis. Ils sont passés à l'émission de Ellen DeGeneres et depuis ce temps-là, ils sont très, très connus, mais moi, je les avais manqués. Mais là, grâce à ce podcast-là, pendant le temps des fêtes,
l'avez-vous magasiné? Avez-vous magasiné sur leur site?
Je n'ai rien acheté,
non, vous avez
par
rien...
exemple.
Non?
Et
non.
Quand j'ai découvert leur site, il était déjà revenu à la normale. J'ai pas vu le site complètement en mode magasinage à l'aveugle.
Bien, on va aller voir. Je vais aller voir. C'est sûr. Autre nouvelle, chère madame?
Bien, j'ai envie de continuer à vous parler un petit peu de mode, puisqu'on en parlait dans Les Inrocks, Rock, le fameux magazine français, à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées au mois de décembre. Ils présentaient aussi différentes initiatives et individus dont il parlait des frères Manning, mais il parlait aussi d'autres exemples comme un organisme qui s'appelle Un regard sur toi, qui, comme plusieurs autres organismes le font, fournit un service bénévole pour accompagner les gens quand ils vont magasiner. Mais ils ont également instauré un système breveté de puces connectées, cousues aux vêtements et lavables en machine. Ce sont des puces qui peuvent contenir des informations comme la couleur, la marque, les instructions de lavage. Et ensuite, avec votre smartphone, avec votre téléphone intelligent, vous pouvez lire l'étiquette de votre vêtement. J'ai dit smartphone, hein, c'est parce que j'étais en train de lire un article français.
Oui, on sait.
Mais ensuite, vous passez votre téléphone sur les étiquettes de vos vêtements et vous avez tous ces renseignements-là. Alors, plus de mélange du rouge, j'ai du blanc pour se retrouver avec des t-shirts roses grâce à cette petite puce.
Mais on n'a pas ça au Québec encore.
Non, pas encore, malheureusement.
Mais peut-être que ça viendra.
On ne sait jamais. On l'espère. On l'espère.
Christiane Campagna, c'est déjà tout le temps qu'on a. Et donc, vous allez être de retour la semaine prochaine.
Bien sûr.
Pour nous apporter des nouvelles qui sont absolument positives.
Oui, avec plaisir.
À la semaine prochaine.
Ma fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi de mon côté, j'étais souvent partie. Des Indes à l'Angleterre, on a couru la terre, mais pas toujours ensemble. Et à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bons compagnons. Mon enfant, mon petit, bonne route, tu prends le train pour la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous épellerons les années de ton nom. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vieilli. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route sur le chemin de la vie. Nos deux cœurs vont changer de pays.
Isabelle Boulay, une très belle chanson de Serge Reggiani, ma fille. Les aveugles n'ont pas un meilleur odorat que les voyants pour catégoriser les vins. C'est un article de Martin Lessard qui a paru à l'Université de Montréal. Les aveugles ne parviennent pas mieux que les voyants à reconnaître les catégories de vins par l'odorat. La vue serait essentielle à la construction de la mémoire olfactive selon une étude de l'Université de Montréal. Bien que différentes études aient démontré que les personnes aveugles possèdent certains sens plus développés, dont le toucher, pour compenser l'absence de vision, ce ne serait pas le cas pour l'odorat, du moins lorsqu'il s'agit de catégoriser des vins. Alors, c'est ce que révèlent les résultats d'une étude menée par la doctorate Simona Manescu sous la co-direction de Johannes Franelli, professeur en anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières et professeur associé au département de psychologie de l'Université de Montréal, et de Franco Lapore, professeur titulaire au même département de l'Université de Montréal. De fait, non seulement leur odorat ne serait pas meilleur que celui des personnes voyantes pour classer les vins, mais il serait moins performant pour déterminer si deux vins sont d'une même couleur. Alors, dans la majorité des cas, les tests portaient sur la discrimination d'odeurs en contact artificiel, comme détecter une concentration plus ou moins élevée d'un arôme, mentionne le professeur Franelli. Nous avons plutôt opté pour un test scientifiquement réputé difficile et qui peut être reproduit dans la vie de tous les jours. Alors, établir s'il s'agit d'un vin rouge, blanc ou rosé, ce dernier étant ardu à catégoriser, même pour les spécialistes. L'équipe de chercheurs de Mme Manescu a ainsi recruté 12 personnes nées aveugles ou l'étant devenues en très bas âge, ainsi que 12 personnes voyantes, formant le groupe témoin. Alors, après s'être fait bander les yeux, les participants ont humé 15 vins, 5 rouges et autant de blancs et de rosés, qu'on leur a présenté 2 verres à la fois. Alors, dans un premier temps, ils devaient déterminer si les vins étaient ou non de la même couleur. Alors, à ce test, les personnes aveugles ont moins bien réussi que les personnes voyantes. Ensuite, on soumettait 2 vins de la même couleur aux participants qui devaient dire si les 2 verres contenaient le même type de vin ou pas. Alors, cette fois, les sujets ont tous obtenu des résultats similaires. Alors, les résultats indiquent qu'en plus de ne pas avoir un odorat supérieur aux personnes voyantes pour désigner une catégorie de vin, les personnes aveugles ont éprouvé plus de difficultés à discriminer 2 sortes de vin. Alors, c'est une étude très intéressante. Et du côté de l'Europe, eh bien, on parle beaucoup, on en a parlé d'ailleurs dans plusieurs émissions, les implants rétiniens pour restaurer la vue des malvoyants qui sont atteints de dégénérescence maculaire, la DMLA. Alors, la société française Pixium Vision vient de présenter les premiers résultats de son nouvel implant rétinien. Cet implant nommé Prima a été glissé sous la rétine de 5 premiers patients entre décembre 2017 et juin 2018. D'ailleurs, l'expérience a été faite ici à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Les résultats intermédiaires de l'essai ont été présentés à Chicago fin octobre lors du congrès de l'American Academy of Ophthalmology. Et dans un œil qui fonctionne bien, la rétine est tapissée de cellules photoréceptrices qui captent le signal lumineux et le convertissent en signal électrochimique. Alors, ce signal est ensuite transformé en influx nerveux et véhiculé par le nerf optique jusqu'au cortex visuel, qui est situé à l'arrière du cerveau, qui la transforme en image. Chez les patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie dégénérative de la rétine, ce sont les photorécepteurs de la zone centrale de la rétine ou macula qui cessent progressivement de fonctionner, empêchant la vision centrale à l'origine de la lecture ou de la reconnaissance des visages. Alors, c'est la première cause de malvoyance sévère et de cécité en Amérique du Nord et en Europe chez les plus de 65 ans. L'implant Prima est un petit losange qui est 3 fois moins épais qu'un cheveu, équipé de 378 électrodes qui fonctionnent comme un mini panneau solaire. Alors, le système comporte 3 éléments, un implant sous-rétinien sans fil, une paire de lunettes équipée d'une mini caméra et d'un mini projecteur et un ordinateur de poche. On n'arrête pas le progrès. La caméra miniaturisée montée sur les lunettes enregistre une scène qui est ensuite analysée par un algorithme dans l'ordinateur de poche. Celui-ci reconstitue des images simplifiées et utiles qui sont alors envoyées vers un mini-projecteur qui est incorporé dans les lunettes et celui-ci les renvoie par des impulsions infrarouges sur la puce Prima implantée sous la rétine. On n'arrête pas le progrès et on n'a pas fini d'entendre parler de ces implants rétiniens. La science poursuit son chemin. Voilà, c'était tout pour notre édition de Regard sur le monde. À la technique Maurice Bolduc, ici Michel Poulain qui vous souhaite une excellente semaine et on est de retour avec ma collègue Diane Felice la semaine prochaine.